Le retour de Radio X.
C'est de la snoute. La snoute.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Dans le retour de Radio X. L'enquêteur du paranormal. Christian Page.
Monsieur Page.
Bonjour.
Ça fait toujours du bien, parfois, de surprendre les auditeurs. Tu sais, la petite routine de 5 heures, il faut surprendre nos auditeurs. Puis je suis content que tu sois là vers 15h49 en ce jeudi. Ça fait que c'est un petit week-end qui va commencer bien de bonne heure, Christian.
Oui, j'ai cru comprendre.
Et puis on a dit avant la pause que tu serais peut-être un spécialiste des oiseaux.
Un ornithologue sur le tard.
C'est ça. Parce que c'est Mélanie qui va introduire le sujet. Mélanie, tu nous parles des oiseaux. Là, puis je te l'ai dit, là, Jordan et moi, ornithologues, on n'est pas là. On n'est pas là
pour j'ai peur des oiseaux. Okay,
t'as peur des oiseaux, toi?
Pas oui. Fan, moi. Ah, okay. Voler dans la face, ça me. Non,
c'est pas.
Non, pas vraiment.
Moi, j'adore les oiseaux.
Oui.
Et ça, c'est un phénomène qui me fascine, en fait. Tu sais, je me suis déjà questionnée sur les canards, entre autres. Tu sais, l'automne, quand c'est le temps de partir, qui décide un matin, OK, c'est moi
ça
le chef,
matin, ça
je vais
se
être
passe.
Au bout, puis c'est là qu'on part. Puis là, tout le monde se suit. Bien, c'est une question d'orientation, là, en lien avec les fréquences et tout ça, là, dans leur nez, là, tu sais, bon. Mais là, il y a des phénomènes qui se produisent depuis, quoi, une bonne dizaine d'années certains, là, qu'on peut voir ces phénomènes-là un peu partout. En Colombie-Britannique, au Japon, au Québec, c'est des oiseaux qui tombent en masse, mais du ciel, et qui tombent morts.
Pouf! Bang!
Bang! Donc là, je me demandais si Christian avait peut-être une théorie ou
ça doit être la faute à Donald Trump.
Ah, ça doit être ça.
C'est sûr.
ou peut-être les chemtrails. Les chemtrails qui empoisonnent les oiseaux.
Mais oui, là, ça va être hors contexte par la gang de... Hein?
Oui.
c'est toujours un peu la porte ouverte vers les théories du complot, mais Mélanie, quand elle mentionne, c'est un phénomène qui semble se produire depuis une dizaine d'années, alors que c'est faux.
Oh.
Hein, c'est un phénomène qui est récurrent. En fait, il y a des chroniques qui parlent de ces phénomènes-là, même au siècle dernier.
Ah oui.
On a l'impression qu'on n'en parle plus, probablement à cause des médias sociaux. Hein, généralement, lorsqu'un phénomène comme celui-là se produisait, ça pouvait être évoqué dans la presse locale, puis ça s'arrêtait là. Bon, il y a eu une chute d'oiseaux dans un boisé ou sur une route, X ou Y. Le journal local en parle, on va faire quelques paragraphes là-dessus. Mais depuis l'avènement des médias sociaux, bien évidemment, les gens sortent à l'extérieur, soit on va les filmer, soit on va les photographier, ça se retrouve sur les médias sociaux, et on a l'impression que c'est un phénomène qui est en croissance, ce qui ne l'est pas. En revanche, ce qui perdure, c'est qu'on n'est pas toujours certain de la cause. Dans bien des cas, il faut savoir que les oiseaux, ce sont des volatiles qui sont excessivement craintifs et qui peuvent facilement développer des stress. Et lorsqu'ils développent un stress, pour X ou Y raison, ben éventuellement, reculons un peu, il faut comprendre quand on parlait de ces oiseaux, ces canards qui s'envolent, il faut savoir que dans les volées d'oiseaux, il y a celui qu'on appelle le pilote. Donc, il y a dans le groupe, dans la communauté d'oiseaux, il y a celui qui va être le guide et les autres oiseaux vont le suivre. Donc, c'est le guide qui va déterminer, pour X ou Y raison, qu'il est temps de migrer vers d'autres régions.
Mais tu sais, en vol, là, on voit qu'ils s'interchangent.
Oui, voilà. Mais quand on parle de grandes volées d'oiseaux, là, des grandes nuées,
ouais.
Ben, il peut y avoir un ou plusieurs pilotes. Mais il y a comme un groupe qui est le groupe qui va être ceux qui vont guider les autres oiseaux.
Ouais.
Et ils vont le suivre en faisant cette nuée. Là où on a une problématique, parfois, pas toujours, mais quand il y a des phénomènes... En fait, les chutes d'oiseaux, ça me fait penser parfois un peu au triangle des Bermudes. Hein, en ce sens que souvent, des gens vont essayer de trouver une cause unique à l'ensemble de ces phénomènes. Alors que c'est une erreur de faire ça. Il faut que chaque cause soit prise indépendamment les unes des autres. Comme dans les cas de chutes, si on regarde les chutes récentes d'oiseaux, je me rappelle, il y en a eu une, là, on est à la fin, on est le 1er janvier ou le 31 décembre, c'était, je crois, dans la région de Mexico. On avait lancé des fusées éclairantes et des feux d'artifice. Et visiblement, lorsque ces pétards-là ont sauté, bien, il y avait des nuées d'oiseaux. Elles ont été complètement désorientées et elles ont suivi les leaders qui ont essayé de voler plus bas que l'altitude à laquelle ils volent d'habitude. Et ça a entraîné le fait qu'ils ont percuté des voitures, ils ont percuté des maisons et les autres oiseaux se feront jeter derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on suit le groupe de leaders et si le leader fonce à un endroit, on va le suivre et on va foncer de la même façon. Donc ça, c'est une des raisons. Donc à partir du moment où les oiseaux sont désorientés ou que les leaders de ce groupe sont désorientés, les autres oiseaux vont les suivre aveuglément et ça peut entraîner cette mort des oiseaux.
Ça, c'est un peu un GPS dysfonctionnel. Voilà, le GPS, il ne marche plus.
Et c'est amusant ce que tu mentionnes, Danny, parce que le GPS qui ne fonctionne plus anciens, là, les gens qui ont plus de 50 ans, se rappellent à une époque dans les années 60 ou 70, lorsqu'il y avait des échouages en masse de cétacés, principalement des baleines, on disait que c'est des suicides collectifs. On disait que les baleines se sont suicidées collectivement parce qu'on a trouvé sur une plage 20 ou 30 baleines. Puis là, on se disait que c'est pas normal, donc il doit s'agir d'un phénomène de suicide collectif. Ça paraissait un peu invraisemblable, puis c'était faire preuve de beaucoup d'attribuer aux cétacés des sentiments qui sont propres aux humains. Hein. L'idée du suicide, là, je suis pas convaincu que les cétacés, ça fait partie d'une espèce de pensée. Là. En fait, ce qu'on sait maintenant, lorsqu'il y avait ces échouages de cétacés, comme je l'ai mentionné, principalement des baleines ou des dauphins, on constatait en fait qu'il y avait toujours dans ces groupes ce qu'on appelait le pilote et il y avait des parasites qui se développaient et qui venaient, comme tu l'as si bien dit, Danny, ça venait un peu dérégler le compas. Et éventuellement, bien, si la baleine pilote s'échouait sur la plage, invariablement, les autres, à sa suite, venaient s'échouer à leur tour. Et ça pouvait paraître comme un suicide, mais c'était simplement une réaction tout à fait naturelle parce que dans leur communauté, on suit le leader. Pour les oiseaux, ben, j'ai mentionné le phénomène de la désorientation par le stress, mais dans d'autres cas, les oiseaux, par exemple, sont très fragiles à la grippe aviaire. Et la grippe aviaire, ben, entraîne effectivement des dérèglements dans le compas. Et il peut y avoir des communautés d'oiseaux, donc, qui vont chuter au sol ou aller frapper des objets, vont aller s'écraser dans des fenêtres parce qu'ils sont atteints de la grippe aviaire. Et éventuellement, si ces oiseaux-là font partie d'une communauté ou ils sont les leaders d'une communauté, les autres oiseaux vont aller frapper de la même façon. Donc, il faut vraiment, là, c'est vraiment du cas par cas. Chaque animal ou chaque oiseau qui est retrouvé, on doit regarder dans ce petit groupe-là, est-ce qu'on est en présence d'une maladie? Et une fois qu'on a éliminé la cause de la maladie, bien, il faut essayer de trouver d'autres causes. Comme je l'ai mentionné, il y a le stress. Et ultimement, on ne peut pas, même si les études ne vont pas nécessairement dans ce sens-là, puis on n'a rien qui permette de démontrer ça, il est fort probable que la multiplication d'antennes émettrices de toutes sortes, on parle beaucoup là, de la 5G ou tout ça, mais c'est sûr que la multiplication de ces antennes va éventuellement perturber les échanges électromagnétiques dans l'air et on sait que les oiseaux vont se guider à partir de ces mécanismes-là. Donc, s'il y a des perturbations dans ces mécanismes, et même s'il y a encore des ondes qui ne sont un peu mystérieuses, même chez les ornithologues, hein, on ne sait pas tout sur la façon dont les oiseaux se guident et se dirigent, mais on sait que s'il y a des phénomènes de perturbation d'ordre électromagnétique auxquels sont très sensibles les oiseaux, ben ça peut amener des désorientations. Et qui dit désorientation, on peut entraîner des échouages ou des oiseaux qui vont aller se frapper contre des fenêtres ou contre des murs. Et si c'est une petite volée de plusieurs oiseaux, ben évidemment, on va assister à ce phénomène. Mais il faut se rappeler que c'est peut-être un peu plus fréquent aujourd'hui parce qu'on a plus de tours émettrices de radio, tout le reste. Mais ce sont des phénomènes qui ont quand même été rapportés là, depuis des générations. Mais avant l'avènement des médias sociaux, on en parlait beaucoup moins.
Oh!
Hey, ça m'amène.
C'est plate, hein?
Ouais,
c'est
plate, non, c'est intéressant. Mais ça veut dire que s'il y a une fréquence ou en tout cas une onde là, cellulaire qui a un bug ou quelque chose, les oiseaux passent en même temps, mais c'est ce qui pourrait expliquer le pouf!
Voilà. Donc,
La chute mortelle.
La chute mortelle,
voilà, c'est ça. Donc, on a des espèces de triangles de parce que quand on regarde des séries policières, oui. Le téléphone a borné à tel endroit ou tel endroit. Donc, les tours sont un peu partout. Elles permettent, dans le cas d'enquête policière, de faire de la triangulation pour savoir où le suspect se déplace. Mais ces ondes, évidemment, elles sont également présentes dans l'air. Et si les oiseaux, s'il y a des volées ou des nuées d'oiseaux qui sont dans le même parage, bien, éventuellement, ces émissions radio peuvent entraîner des désorientations pour les nuées.
Hey, est-ce que toi, en une minute et demie, puis là, on développera si jamais tu dis oui, est-ce qu'il y a déjà eu des exorcismes sur des animaux?
Bien, en fait, on a déjà envoyé des animaux au bûcher là, au Moyen Âge parce qu'on disait qu'ils étaient possédés par le diable.
Ah oui?
Oui, oui. Donc, des cochons, des chiens qu'on disait possédés par le diable. Donc, on les envoyait au bûcher. Maintenant, est-ce que, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment des cas d'exorcisme sur des animaux, mais il y a eu quand même des condamnations à mort sur des animaux que l'on accusait d'être possédés ou de cacher l'esprit du malin.
C'est spécial pareil, c'est vraiment
ah oui, tout à
spécial.
Fait. Mais c'est intéressant parce qu'on parlait des oiseaux puis de la façon dont ils sont perturbés, mais il faut savoir que dans le règne animal, il y a plusieurs recherches qui ont été menées dans le domaine de la parapsychologie, donc la perception extrasensorielle. Il y a un type, par exemple, un Britannique, Rupel Sheldrake, qui s'est beaucoup intéressé au psy-animal. Donc, est-ce que les animaux seraient doués de facultés de perception extrasensorielle qui nous échapperaient à nous, les humains? Comme par exemple, comment un animal, un chien ou un chat, qui est perdu parfois à des dizaines, sinon des centaines de kilomètres de son lieu, parce que les propriétaires
ont déménagé. Ils retrouvent son chez soi.
Et là, tout à coup, l'animal, après 3 ou 4 mois, vient gratter à la porte en disant « ben voilà, je suis de retour ». Et ça, évidemment, ça étonne, parce que si l'animal a été perdu dans une ancienne localité et que les propriétaires ont déménagé, comment l'animal a-t-il retrouvé la trace de ses maîtres? Ça, c'est un peu étrange. Les animaux également qui semblent savoir d'avance quand va revenir leur propriétaire. On a mis des caméras dans des maisons, par exemple. Et parce qu'on se dit, ouais, peut-être qu'il entend la voiture, peut-être qu'il, le bruit de la personne qui marche dans l'allée pour rentrer à la maison. Mais c'est pas le cas. On a placé des caméras dans des maisons et on a vu que souvent, 15-20 minutes avant l'arrivée du propriétaire, l'animal devenait de plus en plus agité. Donc, il pressentait la venue du propriétaire. Alors là, évidemment, l'hypothèse que l'on émet, si on essaie de regarder une hypothèse qui est plus terre-à-terre, on s'est dit, est-ce que la luminosité de la journée fait que l'animal développe une espèce d'instinct. Il sait, c'est sûr qu'il n'y a pas une montre, mais il sait là, quelque part qu'il est aux alentours de 16 heures à cause de la luminosité extérieure et tout le reste. Et il sait que c'est à ce moment-là que son maître revient. Mais encore là, on a mené des expériences, on a mis des animaux dans des pièces où ils ne pouvaient pas percevoir l'extérieur et l'animal s'est agité de la même façon. Donc, il y aurait quelque part une horloge biologique à l'intérieur qui lui permettrait quand même de savoir à quel moment le maître va revenir, même s'il ne peut pas voir à l'extérieur. Ça reste encore, puis il y a d'autres histoires où on a tous entendu parler de chiens ou de chats qui vont réagir par rapport à leur propriétaire de manière anormale et éventuellement, on va diagnostiquer chez le propriétaire, par exemple, une tumeur. Est-ce que les animaux sont capables de détecter des tumeurs? On a tous aussi lu probablement des histoires où des animaux ont prédit à l'avance que leur maître allait avoir une crise d'épilepsie ou un truc comme celui-là, ce qui a amené le propriétaire à réagir avant la crise, donc en amont de la crise. Comment l'animal a-t-il pu savoir que leur maître allait éventuellement avoir une crise d'épilepsie, tout le reste. Alors, on se dit, est-ce qu'au moment d'avoir la crise d'épilepsie, est-ce que la biologie humaine déclencherait des espèces d'émissions d'ondes radio qui nous sont un peu inconnues et qui seraient perçues par les animaux et qui, bon, à cause de cette perturbation dans le champ magnétique humain, permettrait à l'animal de détecter en amont l'arrivée d'une crise, une crise cardiaque ou une crise d'épilepsie ou quoi que ce soit. Ça reste très mystérieux. Dans le psy-animal, il y a encore beaucoup de recherches à faire et on en est vraiment qu'au tout début.
Même les tremblements de terre, les animaux
sont souvent énervés. Tout à fait. On pourrait également parler, donc, est-ce que les tremblements de terre entraînent des perturbations des ondes électromagnétiques et est-ce que ces perturbations électromagnétiques peuvent être perçues par des animaux sur de grandes distances qui entraîneraient des mouvements de masse de ces communautés d'animaux? Encore une fois, ce sont des sujets qui sont fascinants et on connaît. Il faut quand même se rappeler, on nous parle souvent des extraterrestres, tout le reste, mais il faut quand même se rappeler que sur Terre, il y a des millions d'espèces animales Et les êtres humains ne sont jamais entrés en contact avec aucune de ces espèces-là. On n'a jamais réussi à dialoguer de manière ouverte avec une autre espèce animale autre que les êtres humains. Donc, j'imagine que ça doit être difficile de communiquer avec des extraterrestres puisque les animaux qui nous entourent vivent dans le même environnement que nous, sont soumis aux mêmes règles et tout le reste, et on est incapable de communiquer ouvertement avec eux. Donc,
Mais le temps qui dit t'es fascinant parce que peu importe ton sujet, on est accroché à tes lèvres.
Ben, tant mieux.
Ah, c'est fun.
Éventuellement, je pourrais vous reparler des recherches qui ont été menées dans le psy-animal. Il y a vraiment des trucs qui sont fascinants et qui, encore une fois, défient notre entendement.
Oui. On a ça en banque. Question page, on t'écoute demain autour de 18h à l'antenne.
Merci.
Oui, absolument. Radio X-Files.
Salut, bon week-end.
Salut, bye-bye.
Salut, bye.
Le retour de Radio X. Radio X.